La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Tout le monde a entendu parler depuis quelque temps du grand télescope spatial de l'ère moderne, le James Webb Space Telescope, ou JWST, qui a été lancé dans l'espace le jour de Noël 2021. C'était bien sûr une coïncidence, rien à voir avec la nativité. C'était seulement un des créneaux horaires de lancement possible et c'est celui qui a marché. On peut dire quand même que c'était une très jolie coïncidence. Le lancement a été spectaculaire, totalement réussi, avec une fusée Ariane française, en collaboration européenne. Le lancement s'est fait depuis la base de Kourou, en Guyane. Les Français, en général, n'éprouvent pas tellement le besoin, en tout cas pas autant que les Américains, de faire de la publicité pour leur propre réussite. C'est dommage, car le public attribue souvent aux Américains des succès et des résultats qui ont été obtenus par ailleurs, en particulier justement en France. C'est bien de le noter et d'en parler. Le JWST est placé dans l'espace à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre, alors que son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, était à environ 500 km de la Terre. C'est une énorme différence. Ça peut sembler étonnant, mais ça se passe de telle manière que le télescope tourne autour du Soleil en gardant la Terre toujours à peu près entre le Soleil et lui. C'est un emplacement tout à fait particulier dans l'espace, qu'on appelle le point de Lagrange L2. Le James Webb Space Telescope n'est pas le seul instrument situé à cet endroit dans l'espace. Il y a déjà beaucoup d'autres satellites avec des télescopes, par exemple le télescope Planck dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. En plus de cette situation dans l'espace du James Webb Space Telescope qui est beaucoup plus éloigné de nous que le Hubble Space Telescope, il y a deux autres très importantes différences entre les deux instruments. La première, c'est la taille. Le diamètre du Hubble Space Telescope est de 2,4 mètres. Celui du James Webb est de 6,5 mètres. C'est beaucoup plus grand. L'autre très importante différence, c'est le type de lumière qu'il observe. Le Hubble Space Telescope observe la lumière visible en provenance des objets célestes, celle que nous pouvons voir avec nos yeux. Le JWST, au contraire, observe l'univers dans le rayonnement infrarouge. Il peut voir les mêmes galaxies que le Hubble Space Telescope, mais avec un autre point de vue, ce qui donne des détails incroyables, et ce qui est très intéressant pour mieux comprendre comment ces galaxies sont constituées, quelles sont les grandes structures, les grands vides à l'intérieur, les nuages de gaz, l'endroit où se situent les étoiles. Alors pourquoi observer l'univers en infrarouge? Pourquoi avoir envoyé dans l'espace un tel instrument? Il y a plusieurs raisons. D'abord, cela permet de détecter les plus anciennes galaxies qui aient jamais existé, celles qui sont nées très tôt dans le jeune univers. Le Hubble Space Telescope observait des galaxies nées 600 millions d'années après le Big Bang. C'était déjà très ancien. Mais le James Webb remonte jusqu'à 200 millions d'années. Comment cela est-il possible? La taille du miroir est importante, bien sûr, car cela permet de collecter plus d'informations. Le JWST peut voir comme ça des objets célestes beaucoup plus faibles que ce que pouvait voir, ou on peut voir encore, puisqu'il est encore dans l'espace, le Hubble Space Telescope. Mais une question fondamentale quand on étudie les galaxies très lointaines, c'est ce qu'on appelle le décalage cosmologique des galaxies. Lorsque une galaxie lointaine a envoyé vers nous, il y a très longtemps, la lumière que nous recevons maintenant, cette lumière était dans les domaines visibles à l'œil, comme la lumière des étoiles proche de nous. Et puis, cette lumière a voyagé dans l'espace plus de 13 milliards d'années avant de nous arriver. Pendant ce temps, l'univers était en expansion, ce qui signifie que les longueurs augmentaient au cours du temps, y compris la longueur d'onde de la lumière qui est en train de voyager dans l'espace. Une lumière jaune dont la longueur d'onde augmente devient rouge, puis infrarouge, et peut éventuellement continuer à se dilater et se retrouver dans le domaine des micro-ondes et des ondes radioélectriques. Donc l'observation dans l'infrarouge permet d'accéder à des galaxies beaucoup plus lointaines que l'observation dans le visible. Mais on est encore loin du cœur du Big Bang. Un deuxième intérêt d'observer dans l'infrarouge est de découvrir la structure profonde des galaxies, impossible à voir dans le rayonnement visible. Les détails observés sont incroyables et donnent du fil à retordre aux chercheurs qui essayent de comprendre tout ça. Un troisième intérêt est de pénétrer au cœur des nébuleuses galactiques, en particulier celles où naissent de nouvelles étoiles avec de nouveaux systèmes planétaires, comme la nébuleuse d'Orion par exemple. L'infrarouge donne aussi accès à de nouvelles informations sur les systèmes planétaires en général et sur les planètes de notre système solaire en particulier. Le JWST a donné par exemple des images spectaculaires de la planète Uranus avec ses anneaux bien visibles en infrarouge. Parce que, contrairement à ce que l'on croit souvent, Saturne n'est pas la seule à avoir des anneaux. Simplement, les anneaux de Saturne sont les plus visibles depuis la Terre. Ceux d'Uranus sont beaucoup plus faibles. Les articles publiés sur les résultats du James Webb Space Telescope dans les médias sont dithyrambiques et très emphatiques, allant jusqu'à dire que ce télescope remet en cause toutes les certitudes du passé au sujet de l'univers. Il est vrai que les résultats obtenus après seulement quelques mois d'observation sont spectaculaires et très importants pour l'évolution des connaissances. C'est magnifique en soi. On ne devrait pas avoir besoin d'accompagner cela d'une amplification emphatique, pas toujours correcte, qui se propage beaucoup actuellement dans les médias. Par exemple, quelques semaines seulement, après les premiers résultats obtenus avec le James Webb Space Telescope, une revue américaine titrait « Le Big Bang n'a jamais eu lieu », comme si c'était une découverte obtenue grâce au télescope. On se demande où les journalistes étaient allés chercher ça. Ça ne faisait certainement pas partie des résultats scientifiques sérieux. Plus tard, d'autres médias ont déclaré que les chercheurs avaient cru un moment que le Big Bang n'avait jamais eu lieu, mais qu'ils s'étaient trompés et qu'ils s'en sont rendus compte rapidement. Ce n'est pas très sympathique pour les scientifiques. Cela ne s'est probablement pas passé exactement de cette manière. Plus récemment, dans d'autres médias, on pouvait lire que le James Webb Space Telescope remet en cause l'âge de l'univers. Cela non plus, ce n'est pas correct. D'autres articles indiquaient encore « Le James Webb Space Telescope va fouiller au cœur du Big Bang ». Fouiller au cœur du Big Bang. Il faut sans doute de telles images pour attirer l'attention du public, mais c'est quoi le cœur du Big Bang? Pour l'instant, le James Webb s'arrête à environ 200 millions d'années après le Big Bang. On est encore loin des origines, même si on s'en approche de manière spectaculaire. Alors, après tout ça, quelle est la réalité des observations du James Webb Space Telescope au sujet des premiers instants de l'univers? Ce qui est vrai, comme je l'ai expliqué, c'est que le JWST peut observer des galaxies qui sont nées 200 millions d'années après le Big Bang, alors que le Hubble Space Telescope ne pouvait observer que les galaxies nées au moins 500 millions d'années après le Big Bang. C'est très important, car les théories actuelles pour essayer de comprendre la formation des galaxies ont du mal à expliquer une naissance aussi précoce. C'était un problème connu, mais ça devient de plus en plus difficile à comprendre. Évidemment, si l'univers était plus vieux que ce qu'on pense actuellement, il n'y aurait plus de problème pour expliquer la naissance des premières galaxies. Mais on ne peut pas remettre en cause de cette manière l'âge de l'univers. Les mesures de l'âge de l'univers ont été obtenues de manière précise par les observations du rayonnement cosmologique primordial avec les satellites WMAP, un premier satellite assez ancien, et le satellite Planck. Le satellite Planck était placé aussi au point de Lagrange L2, comme le James Webb. Sa mission était d'étudier en détail le rayonnement venu de l'époque où l'univers est devenu transparent, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang. C'est un rayonnement si ancien qu'il est actuellement observable dans le domaine des micro-ondes. On voit donc que Planck était beaucoup plus au cœur du Big Bang que le James Webb. La valeur actuellement admise de l'âge de l'univers, de 13,8 milliards d'années, est celle mesurée par Planck il y a une quinzaine d'années. Donc, si on remet en cause l'âge de l'univers, il faut trouver une autre explication pour les résultats obtenus avec les satellites WMAP et Planck. La réalité, c'est qu'il faudra comprendre ce qui s'est passé entre 380 000 ans et 200 millions d'années. C'est tout l'enjeu des prochaines recherches sur les premiers temps de l'univers. Le James Webb Space Telescope est un instrument extraordinaire, une étape fondamentale dans l'histoire de la connaissance. Il nous apporte en permanence de nouvelles informations inattendues sur les premières galaxies de l'univers et donc sur nos origines. Il observe aussi de nombreux objets célestes différents et permet d'approcher les conditions spatiales à l'origine de la vie. Ses observations des systèmes planétaires lointains et ses analyses des atmosphères planétaires donnent l'espoir de pouvoir détecter un jour, pourquoi pas, de la vie ailleurs que sur Terre. De quoi faire rêver l'humanité d'aujourd'hui et donner beaucoup de travail aux générations futures.